Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Cela faisait 20 ans qu'il n'avait pas publié. Hugues Pagan, Le Revenant donc, livre enfin un nouveau roman, noir évidemment. Après une dizaine de titres dans les années 80-90, dont le célèbre Dernière Station avant l'autoroute, l'auteur, considéré comme la grande voix du polar français, s'était retranché dans l'écriture de scénarios pour des séries télévisées, dont Police District, qui mettait en scène un groupe d'enquêteurs. Un univers qu'il connaît bien pour avoir travaillé pendant 25 ans dans la police après des études de philosophie. Styliste avant tout, Hugues Pagan est aussi un perfectionniste. Et il n'a rien perdu, ni de son talent, ni de son exigence, comme le prouve Profil perdu, paru aux éditions Rivage. Un retour à la fiction et un retour aux origines, puisque le personnage principal est l'un des premiers créés par le romancier à ses débuts. Ni aveu, ni interrogatoire, voici un entretien avec un écrivain vraiment hors du commun. Bonjour Hugues Pagan.
Bonjour belle dame.
Après 20 ans de silence romanesque, qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir à la littérature ?
Je sais pas. Il y a des raisons que je qualifierais d'essentielles, des raisons que je qualifierais d'adventices. Ce bouquin, donc, qui s'appelait au départ « Lever d'écrou », a eu une existence, enfin, le manuscrit, le tapuscrit, comme on dit maintenant, a eu une existence extrêmement bizarre, c'est-à-dire qu'il était parfois à mes pieds, dans un classeur rouge, il était parfois sur les étagères, il a été dans les toilettes, vous ne savez pas, mais dans les toilettes, il y a des collections complètes du Chasse-Marais, de la Vie de l'Auto, etc. Des endroits méditatifs, et bien, il était là, il était sur les étagères en haut. Et puis, je crois que ça doit être en avril, ça doit être le 23 avril à 10h du matin, je crois, je me suis dit, faut y aller, quoi. Voilà, je me suis dit, faut y aller, il faut que ça sorte.
Oui, en fait, vous n'avez jamais vraiment cessé d'écrire.
Je n'ai jamais vraiment cessé d'écrire du roman. Je ne cesse pas d'écrire du roman. Je suis un écrivain maladif. Je suis atteint par une maladie grave qui s'appelle l'écriture. Je n'envisage pas une journée sans écrire. D'une manière ou d'une autre. Et donc ça a mijoté, ça a maturé. Et puis un beau matin, je me suis dit, bon, peut-être qu'il ne reste pas longtemps, peut-être qu'on ne sait jamais. Et donc je m'y suis mis, voilà.
20 ans après, avec Profil perdu, vous allez pouvoir toucher de nouveaux lecteurs qui n'avaient pas lu vos précédents livres, mais vous allez aussi renouer avec ceux qui vous sont fidèles et qui donc ici vont retrouver l'inspecteur Schneider que vous aviez déjà mis en scène. Qu'est-ce que vous n'aviez pas dit à propos de ce personnage qui vous a paru important de raconter ?
Schneider, pour moi, c'est le premier... Mon premier bouquin s'appelait « La mort dans une voiture solitaire ». Il a très bien fonctionné, merci, à l'époque. C'était en 82, je crois. J'étais le premier policier qui écrivait réellement. Je veux dire, je parle pas des gens qui se font des petites perruques en écrivouillant des choses sur un bord de table. J'étais un écrivain policier. Et ce personnage m'est échu. Ce personnage est venu. Alors, c'est un personnage assez particulier. Assez peu, au fond, son intérêt policier est assez mince. Hein, c'est pas extraordinairement intelligent. Mais il lui est arrivé quelque chose. Il avait eu deux événements dans sa vie. Et là, Profil perdu, c'est à plat. On raconte ce qui est arrivé à Schneider, ce qui lui est arrivé, et puis ce qui lui est arrivé lorsqu'il était parachutiste en Algérie. Voilà. J'ai l'impression que j'ai donné des cartes pour quelqu'un qui aurait l'idée saugrenue en 2017 de relire La mort dans une voiture solitaire. Il y a un cycle qui a été ouvert par La mort dans une voiture solitaire et qui se termine par Profil perdu. J'ai bouclé une boucle.
Le roman donc s'ouvre le 31 décembre 1979, ouais. À quelques heures du Nouvel An. Ouais. Et pendant plusieurs semaines, nous allons suivre Schneider, mais aussi son équipe, dans une enquête pour résoudre l'attaque de l'un d'entre eux qui a été blessé grièvement par balle. Je me demandais, Hugues Pagan, est-ce que c'est purement romanesque de situer votre histoire au tournant d'une nouvelle année, ou, selon vous, le début des années 80 marque aussi une charnière dans notre société, peut-être dans l'exercice aussi de la police?
Une charnière, oui, c'est certain. J'ai connu cette époque personnellement. Le milieu que je décris, évidemment, paraît complètement obsolète et ressortir du néolithique, quoi. Je veux dire, ça n'existe plus, c'est plus comme ça, etc. C'est très, très documenté, très typique d'une époque. Bon, ça c'est indiscutable. La Giscardie déclinante, les pouvoirs qu'on voit apparaître ensuite, et puis cette bascule qui se fera vers 81, je veux dire qui est une bascule réelle. Tout ça, ça existe, c'est un fait. Et les comportements, surtout les comportements que je décris, sont tout à fait réalistes. Je les ai connus. Voilà. Mais ça, c'est pour moi le c'est pas le nœud du problème. Le nœud du problème, il est très simple. C'est qu'il fallait que je fasse. Je vous parle de la boutique. Hein, je vous parle de ce qui est vraiment le compulsionnel. Il fallait que qu'il se passe un événement. C'est la rencontre ô combien emblématique entre Schneider et Cherokee. Et il fallait que ça se passe.
Cherokee étant la femme dont il va tomber amoureux.
Étant la femme dont il tombe amoureux.
On va reparler, voilà, évidemment.
Voilà. Et donc, il fallait que ça ait une certaine solennité. Je veux dire. Et j'ai réfléchi que l'événement qui était l'un des plus pour les adultes. Il y a Noël chez les enfants, puis le 1er janvier, alors, à tort ou à raison, c'est une fête, comme ça, c'est pas la mienne, mais c'est une fête. Et à l'occasion de cette fête, donc 1er janvier, il rencontre quelqu'un d'autre.
Alors Schneider est un homme et un flic honnête, lourd de nombreux fantômes, nous en reparlerons, mais c'est vraiment quelqu'un d'intègre, qui ne supporte pas les violences dont font preuve certains policiers envers les prévenus. Et d'ailleurs, il y a une espèce de guerre larvée entre son service et un autre, et il va jusqu'à dénoncer un tabassage sur un homme qui a été arrêté et qui lui paraît tout à fait inapproprié. Et Hugues Pagan, vous employez le terme d'omerta, à savoir la loi du silence, qui peut exister dans ce milieu, parce qu'on va lui reprocher de dénoncer.
C'est pas une omerta qui peut exister, c'est une omerta qui existe. Qui existe et qui continue d'exister en 2017, en dépit des rodomontades des uns et des autres. Une tradition, une vraie tradition dans la police française de brutalité, de racisme. Oui, absolument. C'est un constat objectif. Alors, je dis pas que ça me ravit, je dis pas que ça me fait plaisir, mais c'est un fait que le petit passage. Mais il y a des manières très simples. Quand vous interpellez quelqu'un, maintenant la mode c'est de le foutre par terre, de marcher dessus, enfin de le menotter. Ben, si vous menottez quelqu'un trop fort, vous allez le faire saigner, quoi. Le juge n'en saura rien.
Et vous dites, Hugues Pagan, que ça continue encore aujourd'hui en 2017.
Oui, bien, là, on a eu récemment la preuve, je crois, d'un jeune garçon qui a eu des soucis avec les gens des services spéciaux. Je dis, attends, c'est une tradition. Et notamment, il y a un problème, à mon avis, un problème qui est grave, c'est que ces gens qui font des passages à tabac, ont le sentiment de l'impunité. Et ça, c'est grave. Il ne faut pas oublier qu'un policier, c'est un agent de service public qui est provisoirement dépositaire de la force publique. Il n'en est pas propriétaire.
Alors, je voudrais revenir sur cette époque très particulière que vous racontez, Hugues Pagan, parce que je me demandais si le fait de nous plonger et de vous plonger dans ces années 80, c'était aussi une façon d'être encore dans la proximité de ce qu'on a appelé les événements d'Algérie dans les années 60. Une guerre que Schneider a connue, a très mal vécu comme para. Il est revenu d'ailleurs avec ces fameux fantômes dont je parlais. Donc c'était important pour vous de rester à proximité de cette Algérie où vous êtes né justement.
La proximité de l'Algérie, elle a toujours été là. Je veux dire, c'est d'une certaine façon, on est encore sous la férule ou sous l'influence de cette guerre non guerre, de cette situation non avouée, de ce non dit absolument extraordinaire. Et là, à ce point de vue-là, je suis Schneider à 100%. À ce point de vue-là uniquement, cette espèce de colère, il est du côté de gens. Il y en a eu, il y en a eu deux ou trois, et en particulier ce général extraordinaire qui s'appelait Bollardière. Bollardière qui s'est déclaré contre la torture en Algérie, qui était un fait, la torture a été un fait pratiqué couramment, pour des raisons d'ailleurs de pur racisme, de pur sadisme. On sait très bien que le renseignement pertinent ne vient pas de la torture, on le sait. D'ailleurs même les spécialistes américains le reconnaissent, c'est vous dire.
Vous avez quitté l'Algérie à quel âge ?
J'avais pas tout à fait 16 ans.
Et on était en quelle année ?
62, je suis parti comme tout le monde. Sans regret, enfin, je n'ai pas regretté les maigres propriétés qu'on a laissées là-bas. Je veux dire, c'est pas ça le problème.
Mais la littérature pour se souvenir aussi et pour en parler.
Ouais, parce que c'est Schneider, c'est enfin, le point que j'ai avec Schneider, c'est qu'on est des montres qui se sont arrêtées, quoi. C'est à l'entrée de cette grotte, quand il a fait cette découverte, et quand il a enterré ses malheureux restes, bah, fort mal d'ailleurs, il s'est passé quelque chose dans sa tête. Et si quelqu'un ne prétend que ça ne peut pas arriver, bah, je le considère comme un infirme. Il y a des événements qui sont des événements marquants. On n'y peut rien.
In the evening, Mama, when the sun goes down, in the evening, baby, when the sun goes down.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières en compagnie aujourd'hui de l'écrivain français Hugues Pagan pour parler de ce nouveau roman, Profil perdu. Alors on a déjà évoqué en première partie le cadre, l'usine, qui est donc ce terme générique pour parler de la police, Schneider, qui est inspecteur. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que si c'était un grand roman de flic et un grand roman noir, c'est aussi un très grand roman d'amour. C'est la rencontre entre Schneider, Claude Schneider et Cherokee. Cette femme qui va bouleverser sa vie, ils vont se bouleverser d'ailleurs tout à fait mutuellement. Est-ce que c'est compliqué de raconter la naissance d'une passion dans un univers aussi marqué par la mort, sachant que Cherokee est infirmière aux urgences, donc elle aussi, elle est en contact direct avec la mort?
Ça n'est pas difficile du tout. Ça n'est pas difficile tout. Si on sort de la mièvrerie habituelle des contrats de mariage, des mariages d'ailleurs de plus en plus coûteux, de plus en plus capitalistiques, etc. L'amour, la vie, la mort, ça fait partie d'un ensemble qui est absolument indissociable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et la vie, c'est cette femme absolument vivante, je veux dire, qui est aux antipodes. Normalement, sur le papier, et c'était le gros travail à accomplir, et j'espère réussir, c'est marier la mort et la vie. Et Cherokee et la vie.
Alors, une question périphérique, et s'il vous plaît, ne me dites pas, je ne sais pas.
Oui.
Parce que ces deux-là, même après avoir consommé leur amour de façon charnelle, passionnelle, Schneider et Cherokee continuent de se voussoyer.
Oui.
Pourquoi, Hugues Pagan?
Alors, pourquoi monsieur mon papa et madame ma maman se voussoyaient-ils au bout de je ne sais plus combien d'années de vie ensemble, de vie conjugale? Pourquoi est-ce que toute ma jeunesse, j'ai voussoyé mon papa et ma maman? Et pourquoi, surtout, cette habitude m'a paru plus positive que négative? Alors, je vais vous répondre, risque de vous irriter. Je ne sais pas, mais je pense que le voussoiement n'est pas quelque chose dans l'espèce de relâchement, de débridement, n'est pas quelque chose qui ne rend pas possible le fait de s'aimer. Je veux dire. Bon, pourquoi? À un moment, elle le dit d'ailleurs, que tiens, en fait,
oui,
on a couché ensemble, puis
question.
On continue à se voir au TDW. Est-ce que ça change quelque chose? Voilà, est-ce que ça change quelque chose? Ben, j'ai voulu qu'il y ait cette espèce de allez, j'ose dire, d'aristocratie.
En tout cas, il y a quelque chose aussi de la bombe à retardement perpétuellement dans ce roman, et particulièrement à travers des toutes petites scènes. Par exemple, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'ils regardaient l'heure, alors ils regardent leur montre et systématiquement ils vérifient la pendule. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Hugues Pagan?
Un tic professionnel, et le fait qu'un vrai policier, alors je parle d'un vrai policier de PJ, pas un type qui fait du maintien de l'ordre harnaché comme un Robocop, c'est pas ça, mais le type qui fait partie d'une unité de police judiciaire, c'est quelqu'un qui doute de tout et de tous, y compris de lui-même. Voilà. Donc il va systématiquement vérifier toutes les informations, même les plus infimes. Je veux dire, ma montre dit 17h12, donc il doit être 17h12, là on me dit 17h08, là on me dit, donc je vais faire une, et ça va tomber à 17h10, donc je vais raffiner mon analyse. Et
donc ça, c'est des réflexes que vous avez gardés?
Ce sont des réflexes que j'ai gardés, mais qui sont à la fois ce sont des réflexes chez les personnages. Alors effectivement, on peut, mais c'est aussi le fait que dans ma façon d'écrire, il y a le même souci d'exactitude, de véracité, de pas de vérité parce que je sais pas. J'aimerais savoir, mais je sais pas. Mais de véracité, de voilà, c'est.
Alors, on va en parler de l'écriture, Hugues Pagan. À la fois, il y a beaucoup de choses à dire et à la fois, c'est très compliqué parce que. À la lecture de ce livre, j'ai trouvé que chaque phrase, chaque paragraphe, chaque page était d'une maîtrise étourdissante, que ce soit dans le ton, dans la singularité, le choix des mots, de leur agencement. Il n'y a pas un cliché, c'est que une nouvelle découverte. Est-ce que c'est dans ce travail-là que vous avez le plus de plaisir, ou est-ce que ça se fond avec aussi les personnages, les situations, l'évolution d'une histoire. Est-ce que tout ça se mêle ou vraiment l'écriture pour vous c'est sacré?
J'aurais tendance à dire que c'est les deux. C'est les deux. Alors, je suis un malade mental, je suis un schizophrène stabilisé par l'écriture. Il faut savoir que tout ce que vous lisez, je l'ai dans la tête. J'ai dans la tête en forme d'image, tout est déjà là. Ensuite, c'est dans la tête au sens d'un plan détaillé. Et après, il faut que je fasse en sorte que ce qui est dans la tête rentre dans la tête de quelqu'un d'autre. Et il y a deux choses à faire pour ça. Il y a l'information. La baronne est sortie pour prendre sa voiture et aller au bois de Boulogne. Ça, c'est une information. Et puis, ce que j'appelle le feeling est... Mon travail d'écrivain, c'est de faire en sorte que les deux correspondent et qu'il y a à la fois chez le lecteur une appétence de lire et qu'il arrive à bien voir se développer les fleurs, les arbres. Etc. Il faut que tout ça existe. Il faut que la réalité de l'écriture devienne une existence à part entière. Et pour ça, effectivement, il s'agit de travailler, c'est tout. J'ai pas de génie, hélas, j'aimerais, mais bon, voilà, c'est du travail. Et puis surtout, il faut, pour moi, qui suis musicien dans l'âme, hein, il faut que ça soit musical, il faut que les phrases, voilà, mon influence principale, c'est le blues.
Oui, alors vous anticipez ma question suivante, oui. C'est qu'en effet, il y a plein de références musicales et je me demandais dans quelle mesure le jazz, le blues avaient de l'importance dans votre vie. Vous venez déjà d'y répondre, Hugues Pagan.
Je n'imagine pas d'écrire sans jazz parce que je veux que le spectateur ait une émotion comparable en lisant. Alors, c'est très, très, comment dirais-je, très, très ambitieux, hein, mais une émotion comparable en disant que l'émotion que j'ai moi en racontant ça et en écoutant Duke Ellington, la Far East Suite, voilà, ça c'est pour le côté magique, parce qu'il y a une magie dans l'écriture, sinon c'est pas la peine. Et puis d'un autre côté, il y a aussi l'aspect informatif. Et l'aspect informatif, c'est qu'est-ce que je pense de la vie, qu'est-ce que je pense de la mort, qu'est-ce que je pense de l'amour, qu'est-ce que je pense. Et ça c'est le blues. Le blues, il y a un aspect répétitif, simple et lancinant dans le blues, qui est le côté idéologique. Il y a d'un côté le côté physique, charnel, le jazz, le grand orchestre, voilà, avec tout ce que ça comporte. Et puis, d'un autre côté, il faut quand même dire de quoi on parle. On parle d'une bavure, on parle d'une femme qui rencontre un homme, d'un homme qui rencontre une femme. Il faut en parler clairement. Et aussi, objectivement que possible, mais surtout il faut qu'il y ait cette musique. Si vous n'avez pas de musique dans une phrase, c'est pas la peine. La dernière phrase de Profil perdu, j'ai pas honte de dire qu'elle fait trois lignes, elle a été calculée au millimètre près, ça a été 48 heures de boulot où je n'ai fait que ça sur une phrase. Voilà, il faut qu'il y ait le feeling, il faut qu'il y ait la chanson, il faut les paroles et la chanson. Alors est-ce que j'y arrive, je sais pas, mais en tout cas je tâche d'y arriver.
Alors, si vous n'avez jamais cessé d'écrire pendant les 20 dernières années, puisque vous êtes scénariste pour le grand écran et le petit écran, est-ce qu'on va attendre encore 20 ans pour un prochain roman ?
Bah, déjà, il faudrait savoir exactement combien de temps il me reste civilement. Ça, je m'en fous. Ça présente. Je suis quelqu'un qui serait très capable de vivre sans moi. Voilà, je pense que si on pouvait me dispenser de ma présence, je serais très heureux. Hélas, à moins d'aller dans un cabanon spécial, c'est pas comme ça que ça se passe. Là, le cycle des Schneider est terminé, hein, c'est fini, on a ouvert, on a fermé, mais j'ai encore quelques idées de romans, oui. Mais vous savez, il y a très longtemps, j'ai été interviewé avec un monsieur qui s'appelait Maurice Périssé, qui était un écrivain, un tout petit écrivain, mais tout petit, il était petit, je dirais. Il était adorable et on était interviewé sur une radio libre à l'époque, ça existait. Et le speaker présentateur dit, je vous posais la question à tous les deux, pourquoi est-ce que vous écrivez? Alors Maurice, avec toute sa gentillesse, a dit, mais empêchez donc un pommier de faire des pommes. Et quand là, on m'a tendu le micro, j'ai dit, mais attendez, mais pourquoi voulez-vous que je dise mieux? Je peux pas dire mieux. Maurice a tout dit, je veux dire. Essayez toujours d'empêcher un écrivain d'écrire, un écrivain.
Donc, on va avoir une nouvelle récolte.
Oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible.
Merci beaucoup, Hugues Pagan.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle le titre de ce roman, Profil perdu, qui est paru aux éditions Rivage.
Aux excellentes éditions Rivage.
Absolument.
Merci beaucoup.